Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de Saint Stanislas Kostka, dont la fête est le 15 août. Stanislas Kostka naquit le 28 octobre 1550 au château de Rotzku, dans la Basse-Pologne. Il appartenait à une très noble famille de Mazovie, dont la capitale deviendra Varsovie en Pologne. C'était une famille catholique dont les membres occupaient des postes importants dans le gouvernement de la Pologne. Stanislas était le dernier des enfants de Jean Kostka, sénateur de son royaume, et de Marguerite Kriska, sœur du comte palatin de Mazovie, grand officier chargé de la surintendance des revenus et de la juridiction du monarque. Stanislas était encore très jeune quand ses parents le confièrent à un gentilhomme jeune nommé Jean Bilinski pour lui enseigner, entre autres, les principes de la langue latine. En 1564, âgé de 14 ans, Stanislas fut envoyé avec son frère Powell, Paul en français, et son précepteur Bilinski au célèbre collège des jésuites de Vienne en Autriche. Ces jeunes et leurs précepteurs restèrent internes dans ce collège de juillet 1564 à mars 1565. Mais une grande épreuve survint. L'empereur Ferdinand étant mort, son successeur, Maximilien, voulut reprendre la maison que son père avait confiée aux jésuites, et les jeunes pensionnaires durent partir et loger ailleurs. Stanislas, son frère Powell et leur précepteur Bilinski allèrent dans la maison d'un sénateur luthérien, Kimberker, pour achever leurs études. En effet, Powell, son frère aîné, et son précepteur avaient préféré le logis du sénateur à ceux des catholiques parce qu'il était dans un beau quartier de la ville. La vie que Paul, Stanislas et Bilinski, le précepteur, menèrent dans cette maison était bien différente de celle qu'ils avaient menée au séminaire. Stanislas vit son frère changer de vie avec une extrême douleur. Il fit tout ce qu'il put pour ramener Powell à une vie plus réglée, mais en vain. De plus, nous ne devons pas oublier qu'à Vienne, à cette époque, les affrontements étaient nombreux entre catholiques et luthériens. Notre Stanislas admirait l'action des jésuites pour éviter ces luttes d'influence, et c'est ainsi qu'il voulut entrer chez les jésuites. Mais âgé de moins de 15 ans, il était trop jeune et son entrée au noviciat fut refusée. Nous avons compris que le jeune Stanislas, qui s'était montré très pieux dès sa plus tendre enfance, avait été très heureux dès son entrée au collège des jésuites. Là, il pouvait recevoir fréquemment la Sainte Communion, fête rare à l'époque. Il se confessait régulièrement. Par ailleurs, c'était un excellent élève. Stanislas apprit l'allemand, se perfectionna en latin et connut les éléments de base du grec. En décembre 1566, il tomba gravement malade et attribua sa guérison rapide à Sainte Barbe qui l'avait beaucoup prié. En effet, Stanislas aimait beaucoup la Vierge Marie. Aussi avait-il pensé à entrer dans la congrégation mariale de Sainte Barbe. En décembre 1566, il tomba gravement malade et reçut la visite de Sainte Barbe qu'il avait invoquée. Accompagné de deux anges, la sainte lui apporta la communion qu'il ne pouvait recevoir en raison de l'hostilité de son logeur qui refusait la présence chez lui de tout prêtre. Après avoir communié des mains de Sainte Barbe, Stanislas se rétablit très vite à la surprise de tout le monde. Immédiatement, il décida d'entrer chez les jésuites, malgré l'opposition de tous ses proches. Une vraie persécution contre lui se mit en place. Aussi, Stanislas résolut-il de s'enfuir afin de remplir la promesse qu'il avait faite à Dieu. Heureusement, Francisco Antonio, un jésuite portugais, confesseur à la cour, le soutint. Il lui donna une lettre de recommandation destinée à Pierre Canisius, provincial des jésuites d'Allemagne, lettre dans laquelle il demandait que Stanislas fût reçu novice, mais dans une province jésuite éloignée de Vienne. Et le 10 août 1567, Stanislas se déguisa en mendiant et partit pour Augsbourg, en Bavière. Sa famille découvrit sa disparition le lendemain et son frère se mit à sa recherche, mais en vain. Après 15 jours de marche, Stanislas arriva à Augsbourg, mais il devait encore poursuivre sa route jusqu'à Dillingen, en Bavière, où Pierre Canisius l'attendait. Comprenant les problèmes de Stanislas et l'authenticité de sa vocation, Canisius l'envoya faire son noviciat à Rome et écrivit une lettre au supérieur général, le futur saint François Borgia. Porteur de cette lettre et accompagné de deux autres candidats novices, Stanislas Koska et ses compagnons se mirent en route le 25 septembre 1567. Ils arrivèrent à Rome le 25 octobre 1567, après une marche de 1500 km. Le noviciat de Stanislas commença, d'abord dans la maison du Gesù, puis au nouveau noviciat Saint-André du Quirinal, au début de 1658. Le bonheur de Stanislas, novice chez les Jésuites, fut grand. Dieu était si bien servi dans la maison où il était. Stanislas priait avec tant de ferveur qu'il fut vite considéré comme un modèle. Sa prière était si recueillie et son visage si rayonnant que même les novices les moins dévots devenaient très fervents. Malgré son humilité et le soin qu'il prenait à se cacher, on le voyait souvent en extase lorsqu'il priait. On le surprit plusieurs fois au cours de ses ravissements élevé de terre. Que se passait-il en lui ? Stanislas était si rempli de l'Esprit de Dieu qu'il illuminait ceux qui conversaient avec lui. Quel bonheur pour ses amis de vivre avec un jeune si heureux avec Dieu. Quel bonheur d'être appelé par son ami à vivre en conformité avec Jésus-Christ, même avec Jésus crucifié. Stanislas était au noviciat depuis 10 mois lorsqu'il se sentit intérieurement averti que la fin de sa vie approchait. Il en eut les premiers pressentiments au commencement du mois d'août 1658, après avoir entendu un sermon où l'on avait parlé de la fragilité de la vie humaine et de l'importance qu'il y avait à se tenir prêt à mourir. Il en parla le même jour à ceux à qui il put parler, disant « C'est à moi que l'exhortation d'aujourd'hui s'adresse. La préparation à la mort dont on nous a parlé est pour nous une précaution utile parce que l'on peut mourir en tout temps. Mais elle est de nécessité pour moi qui mourrai ce mois-ci. » Stanislas exprima la même chose 4 jours plus tard à un père du séminaire dans un entretien qu'il eut avec lui concernant l'Assomption de la Vierge de Marie. Puis il ajouta ces paroles. « Ah, mon père, que ce fut un heureux jour pour les saints, que celui auquel la Sainte Vierge entra dans le paradis. Je suis persuadé qu'ils en renouvellent tous les ans la mémoire, aussi bien que nous, par quelque réjouissance. Aussi bien qu'eux, j'espère que je verrai la prochaine fête qu'ils en feront. » Ce propos ne firent aucune impression sur personne, car on ne pouvait pas croire que Stanislas, si jeune et en parfaite santé, parla sérieusement lorsqu'il disait qu'il n'avait plus que quelques jours à vivre. Cependant, Stanislas se prépara à mourir. Comme il aimait Dieu de tout son cœur, il ne pouvait s'empêcher de désirer la mort qui devait l'unir à lui. Aussi la demandait-il continuellement à Dieu. Et il sollicita l'intercession du bienheureux martyr Saint Laurent, le saint qu'on lui avait donné pour patron ce mois-là. Et Stanislas se prépara à la fête de Saint Laurent par de rudes pénitences. Le 10 août, jour de la fête de Saint Laurent, Stanislas écrivit une lettre à la Sainte Vierge dans laquelle il la conjurait de lui obtenir la grâce de mourir avant la fête de son Assomption, afin qu'il pût assister à la solennité qui se ferait dans le ciel. Après quoi, il descendit aider le cuisinier à apprêter le dîner. Le soir de ce jour, il se sentit mal et eut un peu de fièvre. Ce malaise paraissait anodin. Cependant, son supérieur le fit aliter. Le 13 août, on porta Stanislas à l'infirmerie en raison de son affaiblissement brutal, de ses fortes fièvres, des sueurs froides et de ses brusques frissons. Stanislas reçut le saint viatique et l'extrême onction avec des sentiments de joie extrême qui parurent alors dans ses yeux et sur son visage. Comme on lui demandait s'il était bien résigné à la volonté de Dieu, il répondit tranquillement « Mon cœur est prêt, Seigneur, mon cœur est prêt. » Stanislas fit ensuite quelques actes de contrition et d'amour de Dieu qui furent entendus de tous ceux qui étaient présents. Puis il demeura assez longtemps dans un profond silence, pendant lequel la Mère de Dieu se présenta à lui, suivie d'une troupe nombreuse de vierges, comme on l'apprit par sa propre bouche. Puis il rendit l'esprit, un peu après 3 heures du matin, le 15 août 1568. Il avait 18 ans. Il fut béatifié par le pape Paul V le 14 août 1605 et canonisé par Benoît XIII le 31 décembre 1726. Sa fête est le 15 août. Parlons maintenant de la spiritualité de saint Stanislas Kostka. Il était si doux que tout le monde l'aimait et l'on s'estimait heureux quand on pouvait avoir une heure de conversation avec lui. Il ne méprisait personne. Il s'accommodait à l'humeur de chacun. Il aimait sincèrement tous ses frères et tous lui ouvraient leur cœur et lui confiaient leurs plus secrètes pensées. On pense souvent à un jeune Italien, natif de Régé, nommé Étienne Augusti, que les supérieurs lui avaient donné pour lui apprendre la langue italienne. Aussitôt qu'ils se connurent, ils s'aimèrent. Ils ne se cachaient rien. Et c'est à cet ami fidèle que Stanislas confia le secret de ses révélations. Et c'est de lui qu'on connut, après sa mort, de nombreux détails de sa vie spirituelle. C'est ainsi que l'on découvrit que Stanislas n'avait pas seulement pour Dieu un amour de préférence, mais qu'il avait aussi pour Dieu un amour de tendresse, dont les transports étaient si violents qu'il croyait souvent mourir. Parfois même, il fallait appliquer des serviettes mouillées sur sa poitrine pour tempérer l'extrême ardeur qui s'y était allumée. Toute la vie de Stanislas était une oraison continuelle et il pensait constamment à Dieu. Inutile d'ajouter que les miracles se multiplièrent sur la tombe de saint Stanislas Kostka.